L'Assemblée générale annuelle 2020 de CKUT s'approche à grands pas. Cette année, nous la ferons en ligne. Soyez des nôtres lundi le 23 novembre à 18h pour une soirée animée où vous pourrez apprendre comment nous avons adapté nos services et notre mise en onde pour répondre aux nouveaux besoins qui ont surgi dans le contexte de la pandémie. Il y aura aussi des comités à joindre. Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans le conseil d'administration, écrivez à culture@commercialcqut.ca pour plus d'informations. Merci de confirmer votre participation par courriel à agm@commercialcqut.ca. En raison de pandémie, CKUT a décidé de rapporter indéfiniment notre campagne de financement annuelle. Mais nous apprécions toujours les dons pour soutenir nos opérations durant la fermeture. Le moment présent exige des nouvelles approches créatives, et des douzaines d'animateurs et animatrices ont relevé le défi en maîtrisant les logiciels pour vous livrer les émissions de très haute qualité. Nous sommes conscientes que CKUT 90.3 FM vous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous faisons appel à votre générosité. Si votre situation vous le permet, nous vous invitons de vous rendre sur notre site web ckut.ca et de faire un don en appuyant sur le bouton vert de donation ou d'envoyer un chèque par la poste à Radio CKUT 3647 rue Université H3A 2B3 Montréal, Québec. Merci.
Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
Sur le plateau de Afrique Étoile, c'est Belamondo. Que je vous demande d'applaudir.
Dans la tête. superbe chanson.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture du vendredi. Nous sommes le 23 octobre. Notre émission avec des suggestions d'art et culture, des réflexions sur la musique, sur des expositions, sur la littérature, sur l'art, quoi. Donc, avec moi, bien, il y a Eve Laurent, Julie et Anthony qui ont préparé des segments pour cette émission. Mais je vais débuter l'émission ici, Esther Bourdage au micro. Donc, l'automne est assez chargé, même si les institutions, les organismes artistiques sont la plupart fermés. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à discuter. Avait lieu le ICA 2020. Donc, c'est un symposium d'art médiatique, d'art numérique qui se tient... je crois que c'est à tous les 4 ans, mais au départ, ça devait être à Winnipeg. Ensuite, c'est Montréal qui a pris le flambeau. Il y a eu la pandémie, c'était repoussé. Et voilà, ça a eu lieu et c'était la semaine passée. C'est un symposium académique. On pourrait dire que c'est la force, la priorité du symposium. Donc, cette année, bien, le thème, c'est sentience. Why sentience? Point d'interrogation. Donc, le ICA 2020 posait des questions, des réflexions sur la résurgence de la sentience. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le fait de ressentir, sentir, créer du sens. Dans l'art et le design récent, les études médiatiques, les études scientifiques et technologiques, la philosophie, l'anthropologie, l'histoire des sciences et le monde des sciences naturelles, notamment la biologie, les neurosciences et l'informatique. Nous demandons pourquoi la science? Pourquoi et comment la science est-elle importante? Donc, c'était vraiment le thème qui englobait pendant quelques jours tout ce grand programme composé à la fois de tables rondes, d'expositions virtuelles, d'interventions urbaines, des talks. Donc, toute une organisation qui était vraiment bien organisée. On parle beaucoup d'expérience, d'exposition, d'immersion, d'espace réel, d'espace virtuel, de cyberespace. J'attire votre attention sur un des panels, table ronde, qui avait lieu et qui regroupait des experts, des chercheurs sur, donc, un des papiers, Machinic Sense and Sensibility, the Problem with Immersion. Donc, c'était un panel qui réunissait Nick Alexander, Jeremy Hai, Ping-Heng Ku, Buddhadilya Chattopadhyay, désolé pour ma prononciation, et Vance Dinkeng. Tous ces gens réunis en ligne, en table ronde, pour nous parler des problèmes de l'immersion. Donc, lorsqu'on parle d'immersion, bien, ça touchait à la fois les espaces physiques, des salles de concert ou des salles en général dans l'architecture, à la fois les espaces virtuels, et là on parle de réalité virtuelle, des jeux en ligne, et toute cette déclinaison des espaces j'allais dire des espaces artificiels, mais ce ne sont pas nécessairement des espaces artificiels, mais ce sont des espaces avec des objets, lorsqu'on parle du numérique. Donc, les experts, les chercheurs parlaient entre autres de comment eux, ils situaient leur recherche par rapport à l'immersion. L'immersion physique ou virtuelle, il y a toujours une orientation qui n'est pas purement à 100% physique ou 100% virtuel. Donc, c'est vraiment intéressant de poser cette réflexion. Il y a toujours aussi la question de l'expérience. C'est quelque chose qui revient souvent, ça. Et des espaces mixtes entre réalité virtuelle et la réalité de la vie de tous les jours. Il y avait aussi comment le mouvement dans l'espace, comment on le décrit, comment on le vit, comment on le pratique. Et c'était aussi des questions soulevées. Vraiment très intéressant. Également, soulignons l'intervention sonore, intervention audiovisuelle urbaine de Martin Rodriguez, donc l'artiste sonore et artiste radiophonique, bien s'est baladé dans la ville avec deux camions qui fusionnaient à la fois un volet visuel puisqu'il présentait des vidéos et également un volet sonore puisqu'il émettait en FM un circuit radio. Donc, voilà, je vous explique. Sous le thème, bien, d'explorer les frontières psychologiques et physiques, ce qui façonne nos identités individuelles et collectives, c'était le thème de son intervention, puisqu'il explorait le territoire autour de ses racines où il a vécu sur la frontière américaine et mexicaine. Donc, il a présenté des vidéos dashcam et des enregistrements audio de signaux radio. Voilà, il se baladait. On peut voir une documentation sur Vimeo où est-ce qu'on peut voir des images du Mexique, de cet espace frontalier. Donc, ce camion fait très pop culture, fait très espace publicitaire. Donc, c'est un camion décoré avec des LED, une superbe éclairage. Vous avez une antenne artisanale qui est sur le toit. Et puis, donc l'artiste Martin Rodriguez bien présentait des extraits de philosophes, de textes de philosophes, d'artistes, de poètes chicano, donc originaire du Mexique ou descendant du Mexique qui vivent aux États-Unis. Donc, c'est un terme largement utilisé dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, Chicano. Donc, il y a un côté DIY avec cette antenne artisanale. Et l'artiste fait référence aussi au dieu de l'œil de Dieu, Ojo de Dios, avec cette antenne traditionnelle, puisque on pense que Ojos de Dios a le pouvoir de voir et de comprendre des choses inconnues à l'œil humain, comme le fonctionnement d'une antenne radio. C'est sûr qu'il y a toujours une dimension mystérieuse avec les ondes radio, et c'est tellement fragile les transmissions radiophoniques DIY. Donc, c'est vraiment un superbe travail qu'il a présenté, Martin Rodriguez, en temps de pandémie. C'est tout un défi de présenter de l'intervention urbaine. L'intervention audiovisuelle hors radiophonique de Martin Rodriguez s'intitule « In Search of Aztlan ». Et ce qui fait référence à un lieu mythologique aztèque, mythique même, à partir duquel les futurs Mexicas auraient commencé leur migration vers le centre du Mexique. Donc, C'est selon des écrits aztèques et des témoignages recueillis par des chroniqueurs espagnols du 16e siècle. Donc, il y a toute une mythologie autour du Atlan et ça fait vraiment référence aussi aux racines des Mexicains, les racines profondes de leurs origines. Et à soulignant également une exposition d'art textile, performance d'art textile, bien documentation aussi de Audrey Briotte. Donc, c'est une artiste, designer, Audrey Briotte, qui travaille avec la technologie et qui a fondé DataPolette, un collectif qui ont formé un hackerspace dédié aux arts textiles technologiques. Donc, il y a toute une question d'analyser le textile et de toute une question de transmission de data par le textile. Donc, le textile est analysé par des machines qui forment des data et ces data-là, elles sont retraduites. Donc, c'est toute une transmission, toute une communication non verbale. Et c'est ce qui intéresse la chercheuse Audrey Briotte, qui est d'originaire de France. Donc, elle présentait une œuvre en ligne. Et en ce moment, bien, c'est encore sur le site web du ICA 2020, donc dans la section Art Portfolio. Cherchez Aphroditi Sprara Audrey Briotte. Voilà. Donc, dans ce contexte de pandémie, on réfléchit beaucoup sur l'organisation d'expositions en ligne, Curating Online Exhibition, qui est le titre d'un article de Michael Connor. Il a écrit cet article le 13 mai dernier sur le site web Rhizome, une organisation dévouée aux arts technologiques new-yorkais, basée à New York. Donc, il a écrit un texte qui porte une réflexion sur l'exposition et il cite entre autres Preserving Digital Art with Rhizome and Google Art and Culture, un texte de 2017. Donc, je vous lis à l'instant. L'exposition implique l'imposition d'un ordre sur des objets, amenés dans un espace particulier et un ensemble spécifique de relations les uns avec les autres. L'art contemporain a monté son lot de défis à ce type de définition, mais chacun de ces concepts est placé sous stress particulier dans un contexte en ligne. Donc, oui, c'est tout à fait ça. Dans une exposition dans l'espace réel, bien, on place l'objet artistique, les œuvres d'art, en relation les unes avec les autres. Et dans l'espace virtuel, les objets... Bien, selon Trevor Owen dans Digital Culture and Mass Culture, bien, ils disent que l'exposition en ligne, c'est plus orienté sur les pratiques que sur les objets. Donc, si on fait un zoom out par rapport à ça, oui, considérons que l'expérience en ligne est tout à fait différente. Et là, je ne parle pas d'expérience sensorielle, VR, quoi que ce soit, mais... Pensons seulement des expositions en ligne, bien c'est beaucoup plus la matérialité n'est plus là, les textures sont plus là, donc soit on prend ça un peu comme de l'information, digérer ça comme de l'information, ou bien voir ça plus comme global, orienté sur les pratiques. Voilà, c'est c'est les réflexions de cette semaine sur les expositions en ligne. Et on n'a pas terminé de voir des expositions en ligne, et évidemment. Donc, il y a toutes sortes d'approches, qui soient documentaires ou plus liées avec l'expérience, justement. Parce que le mot expérience revient vraiment beaucoup dans le discours collectif, dans la scène artistique. ces temps-ci. Donc voilà, écoutons maintenant les autres collègues de votre émission de café et à la semaine prochaine. Au revoir.
Bonjour, ici Ève Laurence pour Café. Je suis en compagnie de Joannie Tremblay du groupe Chasse Pareil qui vient tout juste de sortir un deuxième album qui s'intitule Chicoute. Salut Joannie.
Allô.
Salut, merci d'être avec nous. C'est quand même drôle parce que pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est quand même rare que je parle d'albums de folk ou d'artistes de folk qui m'accrochent. Mais honnêtement, je dois le dire, Chasse Pareil, ça faisait un de mes coups de cœur musicaux depuis plusieurs années. En fait, depuis le premier album en 2016. Il faut dire que j'ai quand même été très adepte de groupes de folk québécois des années 70 à l'adolescence. J'adorais Harmonium, Beau Dommage. Et j'ai ressenti, dès que j'ai écouté votre premier album, Les Oiseaux d'hiver, une belle continuité de ces artistes-là que j'ai tant aimé, fait que ça m'a vraiment accroché. Je me demandais, est-ce que je me trompe en ce qui concerne vos potentielles inspirations?
Non, tu te trompes pas. C'est sûr que Harmonium, ça a vraiment fait partie de comme ma vie cégepienne. Là. J'ai vraiment comme capoté. Là. Je m'enfermais dans le noir dans ma chambre puis j'écoutais l'Heptade. C'était comme la révélation de la vie, genre. Fait que c'est un petit peu inconscient comme influence, mais c'est certain que vu qu'on en j'en ai tellement écouté, c'est certain que ça influence à quelque part. C'est pas nécessairement voulu, mais c'est quelque part à l'intérieur de moi puis d'un petit peu de l'univers musical que j'écoute. Donc c'est certain que oui.
Chasse pareil, vous êtes un quatuor. Donc, toi, Joannie Tremblay, il y a Alexandrine Rodrigue, Pierre-Antoine Tanguay et Pascal Gagnon-Gilbert. Vous êtes originaire du Saguenay. Votre nouvel album s'appelle d'ailleurs Chicoute. Est-ce que vous êtes toujours basé là-bas?
On est un petit peu dispersés partout dans la province. Il y a une personne qui est encore au Saguenay, Pascal, notre drummer. Sinon, moi et Alexandrine, pour les études, on a dû déménager à Montréal. Pierre-Antoine est à Québec, donc on est un petit peu partout. On essaie de se voir le plus souvent possible.
OK. Puis d'ailleurs, ben, j'ai envie de raconter la petite histoire derrière la production de votre premier album parce que ça m'a quand même attendrie. Vous avez écrit votre premier album, Les oiseaux d'hiver, en étant regroupés ensemble tout un hiver à Sainte-Rose-du-Nord. Vous travaillez sur l'album dans un garage chauffé au poêle à bois d'un roseraie. Puis j'ai envie de dire qu'on ressent vraiment cette immersion-là dans la production du premier album. Puis c'est vrai que le Bas-Saguenay en hiver, il n'est pas un endroit plus paisible que ça et inspirant. Je me demandais, est-ce qu'il y a une particularité dans l'écriture et la production de Chicoute?
Ben, c'est sûr que l'univers est vraiment différent. T'sais. Il y a moins le côté intime qui est vraiment présent comme dans Les oiseaux d'hiver. C'était plus dans le travail du son, mettons. Où ça sonnait vraiment intime, un peu comme si on avait juste comme enregistrer ça dans le garage quand on était là. Dans Chicoute, il y a quelque chose de production un petit peu plus gros, tu sais, ça sonne un peu plus prodé, comme on dit, dans le milieu. Donc, un peu plus pop aussi. On a exploré quelques avenues un petit peu plus avec les synthétiseurs, tout ça, avec notre réalisateur Guillaume Guilbeault. Fait qu'on a voulu pousser un petit peu plus le côté comme grosse production, mais c'est pas si gros que ça, mais juste comme aller vraiment travailler les sons davantage, tu sais, puis prendre le temps de créer notre son, puis d'avoir une recherche sonore.
Puis ça paraît aussi, je pense que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de collaborateurs puis de collaboratrices sur cet album-là. Ma prochaine question, c'était justement comment tu qualifierais votre nouvel album en comparaison avec votre précédent? J'avais remarqué aussi l'influence un peu plus pop, peut-être sur certaines pièces, des passages moins acoustique, plus de guitare, là, tu dis synthétiseur ici. Mais ouais, comment tu qualifierais ce nouvel album-là?
Ben, si je le compare au niveau de la thématique aussi avec le dernier album, le premier album, en fait, il y a quand même une thématique qui se ressemble. Il y a vraiment, à l'intérieur des thématiques du projet, l'espèce de décalage entre la ville et la région, la nostalgie, tu sais, du temps passé en région versus ce qu'on est actuellement en ville. C'est quelque chose qui se transposait un petit peu différemment dans le premier album où on exploitait justement plus le côté de la nature, comme la nostalgie de la nature. T'sais, on utilisait vraiment des vocabulaires de la forêt, puis vraiment le boréal style. Maintenant, dans le dernier album, on a un petit peu délaissé ce côté nature-là pour faire place plus au côté nostalgie, mais du côté humain. Fait que c'est vraiment plus la nostalgie des gens qui se trouvent à cet endroit-là. On sent vraiment l'omniprésence d'une genre de rupture amoureuse, des amitiés qui sont présentes, mais qui sont un petit peu séparées par vraiment le déplacement géographique. Donc, c'est encore beaucoup de questions du territoire, mais plus au niveau des relations humaines. Puis c'est ça, surtout au niveau côté, mettons, musical, c'est sûr qu'on est allé explorer vraiment beaucoup. On a découvert comme une infinie de possibilités avec les textures électroniques que notre réalisateur Guillaume Guilbeault a apporté. Donc, on s'est beaucoup amusé là-dedans, mais on a voulu quand même garder notre essence. Donc, il y a quelque chose de très doux qui était présent beaucoup dans le premier album aussi. Il y a vraiment une douceur rattachée à ce projet-là qu'on a un petit peu dissimulé à travers quelques petits tournemagie électroniques à travers.
Justement, la douceur, c'est quand même quelque chose qui est caractéristique dans vos albums. Puis c'est intéressant parce que il y a certaines pièces qui font vraiment des transitions d'ambiance. Tu sais, c'est très doux. Puis là, ça commence à être un peu plus rythmé. C'est vraiment vraiment intéressant. J'ai une dernière petite question. Ben là, c'est sûr, je vous souhaite tellement que vous puissiez vous produire en spectacle bientôt, mais en tout cas, on croise les doigts. Je me demandais, c'était quoi la suite pour Chasse pareille?
Ben, c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir faire un spectacle de lancement. On en a un prévu au Saguenay. C'était vraiment important pour nous de faire au moins un lancement au Saguenay. Vu que l'album s'appelle Chicoute, on fait le lancement à Jonquière, mais c'est à côté de Chicoutimi. Okay. Mais c'est ça, on ne sait pas puisse avoir lieu encore. On espère vraiment que oui. Puis sinon, ça va juste être reporté. Puis ça va être encore plus gros quand on va le faire. On va avoir encore plus hâte de se produire en spectacle. Donc, ça va être la fête. Mais sinon, on espère vraiment pouvoir faire une tournée cet été. On espère qu'il y ait des festivals pour le bien de notre vie culturelle en général au Québec et pour pouvoir faire des spectacles nous aussi. Donc, ce serait pas mal ça qu'on viserait.
Clairement. Puis le spectacle à Jonquière, ça va avoir lieu où exactement? Mettons que j'aimerais y aller.
Donc, au coup des cours, okay. Le 21 novembre.
OK. Bon, ben on croise les doigts que ça puisse avoir lieu.
Oui.
Puis ben sinon, j'aimerais jouer ma préférée de l'album, qui est la dernière chanson, L'oiseau sur la montagne. Je trouve que ça représente bien le travail impeccable des harmonies qu'on retrouve dans l'ensemble de votre œuvre. Aussi la poésie des textes, la mélancolie, la douceur qu'on disait. Donc, on va écouter ça maintenant. Et merci beaucoup, Joannie Tremblay. Donc, l'album Chicoute de Chasse Pareille se retrouve sur toutes les plateformes qu'on connaît.
De retour à l'émission Café sur CKUT, il est maintenant temps de discuter d'un nouveau projet de librairie bien spécial. Pour ce faire, je reçois ce soir Mélanie Guilmette et Alexis Ross. Bonsoir, vous deux.
Salut. Bonsoir.
Mélanie, on va commencer directement. Peux-tu nous parler un peu du projet de librairie « N'est-ce pas l'été » ? Qu'est-ce que c'est?
Je te corrige tout de suite. C'est pas « N'est-ce pas l'été », mais « N'était-ce pas l'été ».
Oh.
Je prends la peine de préciser parce que c'est ça vient d'un poème de Marie Gay que j'aime beaucoup. Fait que c'est comme une citation qu'on ne peut pas modifier.
J'ai fait exprès pour que tu puisses le préciser.
C'est très habile. Le projet, c'est un projet que je porte depuis environ 2 ans, auquel j'ai pensé à la fin de mes études en littérature. Je me demandais si j'allais continuer à la maîtrise ou si je me lançais dans le domaine de la librairie, qui est un domaine qui me plaît depuis très, très longtemps. J'ai décidé de me lancer, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis un petit peu rêveuse. Puis j'ai suivi un cours en lancement d'entreprise pour avoir tout le bagage nécessaire afin de mener ce projet à terme. C'est un projet que j'aimerais établir soit dans Rosemont ou dans Villeray, idéalement dans un endroit où il y a une vie de quartier le plus possible. Au début, j'ai commencé par faire ce projet-là par moi-même. J'ai pensé au nom, j'ai fait le plan d'affaires, l'étude de marché. Puis, à force de rencontrer des obstacles, j'ai réalisé que ce serait peut-être bon de m'entourer de personnes qui pourraient m'aider à développer tout l'aspect qui concerne des événements culturels que j'aimerais mettre dans cette librairie, que ce soit des ateliers de fabrication de zines ou des lectures publiques ou des matinées de contes pour enfants. Il y a une grande diversité de projets que j'aimerais mener. Et j'ai décidé de fonder une BNL avec Alexis Ross et Isabeau Legendre.
Oh, donc, c'est en deux parties. D'un côté, la librairie N'était-ce pas l'été, sans me tromper. Et de l'autre côté, l'organisme à but non lucratif, les petites productions. Alexis, peux-tu nous parler un peu de ces petites productions-là?
Bien, les petites productions, c'est encore, ça reste le projet ou en tout cas l'idée de Mélanie à la base, là, qui voulait animer des activités sur les lieux de la librairie. Puis elle s'est dit que c'est ça, avec l'aide d'Isabeau et de moi-même, ça serait peut-être plus facile, plus dynamique si on était trois. Donc c'est ça, le but c'est d'abord d'animer une vie culturelle autour de la littérature, mais pas seulement, là, autour, il peut y avoir c'est ça, tout ce qui concerne la littérature, parce que ça peut être la chanson, ça peut être la création de zine, organiser des ateliers de création de zine, ça peut être... des soirées de contes, comme le disait Mélanie, tout ça, c'est des choses qu'on veut organiser pour... parce qu'il n'y a jamais assez de vie culturelle, surtout dans les quartiers, peut-être plus loin du centre-ville ou de la rue Mont-Royal, là, où on est habitué d'aller à ce genre d'activité-là. Ouais,
ouais. Alexis, peux-tu préciser un peu?
Ben, l'idée, c'est entre autres avec l'OBNL de créer la vie culturelle dans les quartiers qui n'y ont pas nécessairement accès, comme je disais. Puis aussi, en retour, de donner comme les moyens puis du soutien à des artistes puis à des toutes sortes de personnes qui ont des pratiques culturelles, qui n'ont pas nécessairement accès à des grosses plateformes ou qui sont peut-être en début de parcours ou qui appartiennent à des communautés qui sont marginalisées. Essayer de donner un soutien technique, matériel pour que leurs pratiques puissent se faire connaître. Puis en échange, ben, que les gens du quartier puissent voir des choses qu'on ne voit pas nécessairement normalement dans les librairies.
D'après toi, c'est quoi le plus gros défi à cette mission-là?
C'est évidemment, je dirais, d'avoir les ressources, parce que si on veut que les événements soient accessibles à tout le monde, puis que ça soit généralement gratuit, ben c'est sûr qu'il faut qu'on mette ou qu'on ait les moyens pour organiser ça. Mais en même temps, on essaie de rester à petite échelle pour que ça coûte moins cher, puis de faire des événements qui sont modestes mais intéressants.
Puis sinon, une question qui me taraude, et je me retenais, mais je ne vais pas me retenir. J'ai l'impression qu'une des choses aussi qui peut être difficile, c'est de trouver les gens qui ont moins accès à la culture ou de trouver les artistes qu'on n'entend pas parler. C'est comme une contradiction dans les termes des fois. C'est de sortir de l'invisible, l'invisible. Est-ce que vous avez comme des tactiques, des contacts?
Bien, je dirais peut-être qu'un des moyens, c'est de justement pas nécessairement passer par les contacts. Mm-hmm. Parce que quand on passe par les contacts, c'est là qu'on va vers des gens qu'on connaît déjà. Mm-hmm. Mais si on affiche, on rend la chose accessible, on dit « contactez-nous si vous avez des projets » puis qu'on n'est pas dans des espaces qui sont déjà saturés, tout ça, ben là, il y a moyen de...
Puis une bonne tactique, c'est de passer par des radios comme CKUT, des petites radios qui rejoignent des gens extraordinaires un peu partout à Montréal.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Je le savais. Les deux, vous avez insisté sur l'importance du quartier. On hésite encore, si j'ai bien compris, entre Rosemont et Villeray, mais c'est quand même des quartiers vivants, je pense. Mélanie, peux-tu m'expliquer pourquoi cette proximité-là est si importante?
Bien, quand j'ai fait mon étude de marché pendant mon cours en lancement d'entreprise, j'ai réalisé que les idées reçues qu'on avait par rapport à la vente de livres puis aux librairies, comme quoi les ventes étaient en chute libre dans les magasins parce que les gens achetaient de plus en plus en ligne via Amazon ou d'autres plateformes que je connais pas nécessairement. En faisant ces recherches-là, j'ai réalisé que les librairies indépendantes avaient des ventes plutôt stables puis étaient un peu moins... Je voudrais pas dire qu'ils ne sont pas menacées ou qu'on doit cesser de les encourager. Au contraire, il faut continuer à les soutenir, mais je pense qu'elles réussissent à se sortir de cette spirale infernale d'Amazon, justement par le soutien de leur communauté, toutes les personnes qui habitent dans les entourages, puis qui vont faire leurs courses de Noël là, puis qui décident d'appeler 2 semaines à l'avance pour commander les livres à Noël plutôt que de commander directement en ligne de leur maison. Je pense que c'est ça. Les librairies indépendantes ont besoin de leur quartier puis de leur communauté. La meilleure manière de s'assurer que ce lien-là est bien établi, c'est que les librairies donnent en retour. Puis nous, on pense qu'en faisant des événements, ça réglerait le problème.
Le problème, OK. Bien, je dois vous avouer, j'habite dans Rosemont. Si je suis intéressée par votre projet, je veux vous aider, qu'est-ce que je fais?
En ce moment, on est en campagne de sous-financement avec une plateforme québécoise qui s'appelle La Ruche. Il y a moyen d'aller directement sur le site de La Ruche, chercher NetAS Poleté pour nous trouver. Il y a plusieurs contreparties qui sont quand même cool. Par exemple, ma préférée, c'est que tu pourrais recevoir une lettre anonyme d'un auteur ou d'une autrice que tu ne connais pas avec un extrait de livre. Puis, à l'ouverture de la librairie, tu pourrais apporter cette lettre-là sur place pour recevoir le livre correspondant. Selon moi, c'est comme une belle manière très romantique de se faire recommander des livres.
On m'a toujours avec le romantisme. Les gens trouvent des fois que je suis trop lyrique, trop romantique, là, mais ça me séduit. c'est sûr que je vais aller voir ça sur le site La Ruche, n'était-ce pas l'été. En attendant d'avoir tout l'argent que vous avez besoin sur ce socio-financement-là, quelles sont les prochaines étapes avant la grande ouverture?
Bien, à part la finalité, mettons, de la campagne de socio-financement, il faut aussi que j'aille chercher des prêts auprès d'investisseurs. Je pensais à futurs preneurs, mais surtout, il faut que je trouve un local. Puis ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'hésite entre Rosemont et Villeray. J'aime beaucoup les deux quartiers, mais on dirait que j'aimerais avoir un local qui a beaucoup d'espace pour pouvoir accueillir du monde puis plusieurs événements. Mm-hmm. Fait que j'ai cherché un local qui est grand, qui donne sur une rue passante, puis qui est abordable. Ça aussi, c'est un point très, très important.
Ouais, c'est un gros problème pour bien des gens, les loyers abordables. Bien, tout ça a l'air très intéressant. J'aimerais vraiment ça, moi, en tout cas, qu'il y ait une nouvelle librairie dans mon quartier. entre-temps, on encourage tout le monde à aller sur le site de La Ruche pour aller voir le projet NetAS Paleté. On vous souhaite les deux la plus grande chance, mais en fait, le plus grand travail. Là, je pense que c'est pas de la chance rendue là. On le voit... Mélanie, tu travailles fort là-dessus.
Oui,
bonne soirée à vous deux.
Yes, toi aussi.
Et on va se laisser en musique avec une chanson du groupe Bardo, de l'album Les Méandres de la Soif. Et la chanson, ça va être Une façon parmi tant d'autres.
Even talk like you used to.
Your mask fades with the day. To say.
Sur les ondes de CKUT 93 FM à l'émission Café. On vient tout juste d'entendre le morceau Take Off That Mask and Love Yourself de l'album Mercy's Mystic Playground de Punkty, un album collaboratif avec Marceline Atkins. Punkty, le projet musical de l'artiste basé à Montréal, Laura Barsley, qui donne dans la No Wave, la Yes Wave et dans l'expérimentation électro-acoustique. Punkty qui fait des albums collaboratifs. On peut lire sur sa page Bandcamp que chaque album est une étude, chaque mois une machine à faire du temps et chaque collaboration une création de potentiel. Donc ce dernier album vient tout juste de sortir sur Bandcamp. Et c'est eux qui ont l'oreille sensible. Vous aurez peut-être entendu le doux son du theremin, joué par Marceline Atkins. Le theremin, probablement l'un des plus anciens instruments de musique électronique, inventé en 1920 par le russe Léo Theremin. Cet instrument qui a la particularité de produire de la musique sans être touché par l'instrumentaliste. La musique est produite par le mouvement des mains de l'instrumentiste près des antennes du theremin, qui traduit le mouvement en son. Si je vous parle du theremin, c'est pour vous introduire au documentaire dont je veux vous parler ce soir qui s'intitule Sisters with Transistors, qui est dans la programmation de la 49e édition du Festival du Nouveau Cinéma, un festival à Montréal et bien évidemment dans les circonstances actuelles, malheureusement, à distance. Donc la programmation est offerte sous forme de visionnement à la maison et ce jusqu'au 31 octobre.
Technology is a tremendous liberator. It blows up power structures. Women are naturally drawn to electronic music. You didn't have to be accepted by any of the male-dominated resources. You could make something with electronics and you can present music directly to your audience. And that gives you tremendous freedom.
Dans ce documentaire de 85 minutes, la réalisatrice Lisa Rovner explore le travail des femmes en musique électronique avec une narration de Laurie Anderson. Le film est raconté à travers une combinaison de séquences d'archives avec, somme toute, très peu de narration. C'est vraiment à travers les images d'archives que l'histoire est racontée. À mon avis, c'est vraiment ce qui donne une esthétique et un charme envoûtant au film, qui nous transporte vraiment dans le monde de la musique électronique à ses tout débuts. Ça permet aussi de laisser l'espace aux compositrices en vedette pour parler et jouer leur musique, puisque ce sont vraiment les œuvres musicales de ces femmes qui fournissent la toile de fond sonore du film, ce qui en fait vraiment une expérience profondément immersive avec la nature de leur musique. L'histoire commence avec des archives montrant Clara Rockmore, une théréministe lituanienne qui collabore avec Léon Térémine à la conception, au perfectionnement et à la vulgarisation du Térémine. Donc, comme je le mentionnais, l'un des premiers instruments de musique électronique inventé en 1920. Lisa Rovner nous amène donc à plonger dans l'histoire de neuf femmes pionnières de la musique électronique, Eliane Radig, Wendy Carlos, Daphne Oram, Bibi Baron, Pauline Oliveros, Delia Derbyshire, Marianne Amateur, Suzanne Chiani et Laurie Spiegel. Donc, comme on peut le lire dans la description du Festival du Nouveau Cinéma, ces femmes tissant des ponts entre la composition savante, la scène expérimentale, le cinéma, la télévision et la publicité, elles ont traversé l'histoire des années 50 aux années 80, armées de leurs synthétiseurs, oscillateurs, filtres et séquenceurs, d'intimidantes machines du futur dont le destin artistique restait à inventer. Donc le film a ainsi l'ambition de montrer le travail souvent invisibilisé et réduit au silence dans l'histoire. Donc ces femmes créatrices qui sont souvent restées dans l'ombre. Ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est de montrer tout l'aspect DIY de la production musicale de ces pionnières qui ont inventé différentes machines du futur. On mentionne notamment que c'est cet aspect DIY that related all these women because they were not allowed certain spaces. C'est certain qu'un film de 85 minutes, c'est plutôt court pour explorer l'héritage de toutes ces compositrices, mais je pense que l'intérêt principal, c'est justement de rassembler ces différentes pionnières de la musique électronique dans un même document, dans un même média. Pour les personnes connaissantes du sujet, il y aurait peut-être moins de découvertes, disons, mais ça reste un documentaire absolument magnifique qui est très bien réalisé. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille fortement de lire le livre de Tara Rogers, Pink Noises, qui explore ces thématiques en réalisant notamment beaucoup d'entrevues. Vous pouvez regarder ce documentaire sur le site du Festival du Nouveau Cinéma, et ce, jusqu'au 31 octobre. Donc sur ce, on va passer en musique avec le morceau « Criticism Again » de l'artiste Honey Drip, qui excelle dans l'art de la musique électronique ici à Montréal. Le morceau se retrouve d'ailleurs sur la compilation « Montreal Against Borders » disponible sur Bandcamp. Bonne écoute!
Tandis que nous poursuivons la lutte contre la propagation de la COVID-19, de nouveaux programmes de soutien sont en place pour les personnes qui en ont besoin. notamment un régime d'assurance-emploi plus fort et plus accessible, ainsi que 3 nouvelles prestations de relance économique. Continuer à soutenir les Canadiens maintenant nous aidera à assurer notre sécurité et à rendre le Canada plus résilient. Consultez canada.ca/le-coronavirus pour en savoir plus sur les nouveaux programmes de soutien aux revenus. Un message du gouvernement du Canada.
Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
See they snakes, we hate war, we hate war, they hate peace, so we make war to make peace. That's a great war we were made for. We were not made to just lay dormant, they stay on top, they pay the cops, they take office, they make laws and then say stop. They say war just makes war, but then take forces when state forces are lame force. And then they say that they're brave warriors and save yours, but they're fake prophets. They make war cause they profit. They make rockets of all sides and all lines they pop. Watch the masters of war.
Look, we don't make war. We make sure that there's order. We just follow orders. We just fill orders for more ballistics, munitions, equipment, permissions, provisions. We just design defense systems and ship them on time. Listen, my job is complying with city bylaws and minimizing innocent lives lost from my bosses, both at home and abroad.
We must all continue to respect public health guidelines and follow self-isolation instructions. Self-isolate if you have symptoms. Self-isolate after testing. Self-isolate if the test is positive. Self-isolate when you return from a trip. And self-isolate when you've been in contact with someone who's tested positive. Self-isolation is important. Please, take it seriously. Learn more at quebec.ca/self-isolating. A message from the gouvernement du Québec.
Hola amigos, bienvenidos a nuestra emisión quincenal, escuchando América Latina. Aquí en CKUT 90.3 FM.
Les informaremos a ustedes sobre el arte, la cultura, poesía y turismo.
También tenemos deportes, información actual y mucho más.
América Latina, eres tú.
América Latina es ella.
América Latina es él.
América Latina, somos nosotros. América.
Argentina.
Bolivia,
Brasil,
Chile,
Costa Rica,
Colombia,
Cuba,
Ecuador,
El Salvador,
Guatemala.
América.
Honduras,
México,
Nicaragua,
Panamá,
Paraguay,
Perú,
República Dominicana,
Uruguay,
Venezuela.
América.